Chapitre 4 des Constitutions. Il est évident que les hommes entendent des choses différentes et séparées quand ils parlent de constitution et de gouvernement. Sinon, pourquoi se servent-ils de ces expressions distinctement et séparément? Une constitution n'est pas l'acte du gouvernement, mais d'un peuple qui fait un gouvernement. Et un gouvernement sans constitution est un pouvoir sans droit. Tout pouvoir exercé sur une nation doit avoir eu un commencement. Il faut qu'il ait été délégué ou pris. Il n'y a pas de milieu. Tout pouvoir délégué est un dépôt, et tout pouvoir pris est une usurpation. Le temps ne change pas la nature de l'un ni de l'autre. En considérant ce sujet, le cas et les circonstances de l'Amérique se présentent à nous comme au commencement du monde. Et nos recherches dans l'origine des gouvernements sont abrégées en nous en rapportant aux faits qui ont eu lieu de nos jours. Nous n'avons pas besoin d'aller en quête d'informations dans les plaines obscures de l'Antiquité, ni de hasarder des conjectures. Nous sommes tout à coup à portée de voir le gouvernement commencer comme si nous avions vécu dans le commencement des siècles. Le véritable livre, non pas de l'histoire, mais des faits, est immédiatement devant nous, sans être altéré par l'artifice ou par les erreurs de la tradition. Je vais ici tracer en deux mots le commencement des constitutions américaines, qui feront clairement voir la différence entre les constitutions et les gouvernements. Il ne sera pas, je crois, inutile de rappeler au lecteur que les États-Unis de l'Amérique forment 13 États séparés dont chacun fit un gouvernement pour lui-même après la déclaration d'indépendance faite le 4 juillet 1776. Chaque État agit indépendamment des autres pour former son gouvernement. Mais le même principe général fut observé dans tous. Quand les gouvernements particuliers de chaque État furent achevés, ils travaillèrent à former le gouvernement fédératif qui agit sur la totalité des États dans toutes les affaires qui intéressent cette totalité ou qui ont rapport à la correspondance des différents États entre eux ou avec les nations étrangères. Je vais commencer par donner une esquisse du gouvernement d'un des États, de celui de Pennsylvanie, et ensuite je parlerai du gouvernement fédératif. L'État de Pennsylvanie, quoiqu'à peu près aussi grand que l'Angleterre, n'était alors divisé qu'en 12 comtés. Chacun de ces comtés avait élu un comité au commencement des querelles avec le gouvernement anglais. Et comme la ville de Philadelphie, qui avait aussi son comité, était la plus centrale et la plus propre à obtenir promptement des nouvelles, elle devint le centre de communication pour tous les autres comités. Quand il fut nécessaire de travailler à la formation d'un gouvernement, le comité de Philadelphie proposa une conférence de tous les comités des comtés dans cette ville et cette conférence eut lieu vers la fin de juillet 1776. Quoique ces comités eussent été élus par le peuple, ils n'avaient pas été élus pour faire une constitution et n'avaient pas de pouvoir pour cela. Et comme selon les idées de droit adoptées chez les Américains, ils ne pouvaient pas s'arroger de pareils pouvoirs, tout ce qu'ils purent faire fut de conférer sur ce sujet et de le mettre en train. Les commissaires ne firent donc qu'exposer la nécessité de la chose et recommander aux différents comités d'élire 6 représentants par comté pour former une convention à Philadelphie afin de faire une constitution et de la soumettre à l'examen du public. Cette convention, dont Benjamin Franklin fut président, s'étant assemblée et ayant délibéré et fait le plan d'une constitution, ordonna ensuite qu'elle fût publiée, non pas comme un code de loi, mais pour être examiné par le peuple, approuvé ou rejeté par lui, et s'ajourna à une époque fixe. Quand le temps de l'ajournement fut expiré, la convention se rassembla, et comme l'opinion générale du peuple était alors connue, et que cette opinion était en faveur de la Constitution, elle fut signée, scellée et proclamée de par l'autorité du peuple, et l'original déposé aux archives. La convention fixa alors un jour pour l'élection générale des représentants, qui devait composer le gouvernement, et assigna le temps où il serait mis en exercice. Après cela, la convention fut dissoute, et les membres qui la composaient retournèrent à leurs différentes occupations. Dans cette constitution, on commença par faire une déclaration des droits. Ensuite, on marqua la forme qu'aurait le gouvernement et les pouvoirs dont il serait revêtu. On fixa l'autorité des cours de judicature et celle des jurys, la manière dont se feraient les élections et la proportion de représentants suivant le nombre des électeurs, le temps que chaque assemblée durerait, qui fut un an, la manière de lever l'impôt et de rendre compte de la dépense des deniers publics, de nommer les officiers publics, etc., etc., etc. aucun article de cette Constitution ne fut laissé à la discrétion du gouvernement qui devait suivre, on ne lui permit ni de l'enfreindre, ni de la changer. Ce fut pour ce gouvernement une loi. Mais comme il n'aurait pas été sage de ne pas profiter de l'expérience, pour prévenir aussi un amas d'erreurs en cas qu'il s'en trouvât, et pour conserver l'harmonie du gouvernement avec les circonstances de l'État dans tous les temps, la Constitution pourvut à ce que tous les 7 ans, on élirait une convention pour le dessein formel de réviser la Constitution et d'y faire des changements, des additions ou des suppressions, en cas que cela fût nécessaire. On voit ici des procédés réguliers. Un gouvernement qui sort d'une constitution formée par le peuple dans son caractère originaire, et cette constitution servant non seulement d'autorité, mais de loi, de contrôle au gouvernement. Elle devient la Bible politique de l'État. À peine se trouva-t-il une famille qui n'en fit pas l'emplette. Chaque membre du gouvernement en avait un exemplaire, et rien n'était plus commun lorsqu'il s'élevait quelque débat sur le principe d'un bill ou sur l'étendue d'aucune espèce d'autorité, que de voir les membres tirer leur constitution de leur poche et lire le chapitre qui avait rapport à la matière en question. Ayant ainsi donné un exemple de l'un des États, je vais montrer les procédés par lesquels la Constitution fédérative des États-Unis s'éleva et fut ensuite formée. Le Congrès, à ses 2 premières séances, en septembre 1774 et en mai 1775, n'était qu'une députation des législateurs des différentes provinces appelées depuis États, et n'avait d'autre autorité que celle qui provenait du consentement commun et de la nécessité où il était d'agir comme un corps public en tout ce qui concernait les affaires intérieures de l'Amérique. Le Congrès ne fit jamais autre chose qu'émettre des recommandations aux différentes assemblées provinciales qui étaient libres de les adopter ou de les rejeter. Rien n'était coercitif de la part du Congrès. Cependant, dans cette situation, il fut plus fidèlement et plus cordialement obéi qu'aucun gouvernement de l'Europe. Cet exemple, comme celui de l'Assemblée nationale de France, prouve assez que la force du gouvernement ne gît pas en lui-même, mais dans l'attachement d'une nation et dans l'intérêt que le peuple trouve à le soutenir. Quand ces 2 motifs n'existent plus, le gouvernement n'est plus qu'un enfant en pouvoir. Et quoique, comme l'ancien gouvernement de France, il puisse pour un temps harasser les individus, il ne fait que faciliter sa propre chute. Lorsque l'Amérique eut déclaré son indépendance, il devint nécessaire, selon le principe sur lequel le gouvernement représentatif est fondé, de définir et d'établir l'autorité du Congrès. La question n'était pas de savoir si l'autorité du Congrès serait plus ou moins grande que celle qu'il avait exercée à discrétion, mais c'était une mesure qu'il fallait prendre parce qu'elle était juste. C'est pourquoi l'acte, appelé l'acte de la fédération, qui était une espèce de constitution fédérative imparfaite, fut proposé et, après de longues délibérations, conclu l'année 1781. Ce ne fut pas un acte du Congrès, parce qu'il répugne au principe du gouvernement représentatif qu'un corps se donne à lui-même des pouvoirs. Le Congrès informa d'abord les différents États des pouvoirs qu'il croyait nécessaire d'accorder à l'Union pour la mettre en état de s'acquitter des devoirs et des services qu'on attendrait d'elle. Et les États consentirent à accorder ces pouvoirs au Congrès. Il est à propos d'observer que dans ces 2 cas, l'un de la Pennsylvanie et l'autre des États-Unis, il n'y eut pas la moindre idée d'un contrat entre le peuple d'une part et le gouvernement de l'autre. Le contrat fut celui des différentes parties de la nation, les unes avec les autres, pour produire et constituer un gouvernement. Supposer qu'aucun gouvernement puisse être parti dans un pacte avec tout le peuple, c'est supposer qu'il existe avant d'en avoir le droit. Le seul contrat qui puisse avoir lieu entre le peuple et ceux qui exercent le gouvernement, c'est que le peuple les paiera tant qu'il lui plaira de les employer. Le gouvernement n'est pas un métier qu'un homme ou un corps d'homme a droit d'établir et d'exercer pour en faire son profit, mais c'est un dépôt confié par ceux qui en ont le droit et qu'ils peuvent toujours reprendre. Il n'a par lui-même aucun droit, il n'a que des devoirs à remplir. Après avoir donné 2 exemples de la formation originaire d'une constitution, je vais faire voir comment elles sont toutes 2 changées depuis leur premier établissement. L'expérience montra que les pouvoirs dont les gouvernements de différents États étaient revêtus, selon leur constitution, étaient trop grands, et ceux accordés au gouvernement fédératif par l'acte de fédération trop petits. Le vice n'était pas dans le principe, mais dans la distribution des pouvoirs. nombre de pamphlets et de lettres dans les papiers publics parurent pour démontrer la propriété et la nécessité de corriger le gouvernement fédératif. Après plusieurs discussions publiques entretenues par le canal de la presse et dans les conversations particulières, l'État de Virginie, éprouvant des inconvénients par rapport au commerce, proposa une conférence continentale. En conséquence, des députations de 5 ou 6 des États se rendirent à Annapolis dans le Maryland en 1786. Cette assemblée, ne se croyant pas suffisamment autorisée pour travailler à une réforme, ne fit qu'émettre des opinions générales sur la propriété de cette mesure et recommander une convention de tous les États pour l'année suivante. Cette convention s'assembla à Philadelphie au mois de mai 1787 et le général Washington en fut élu président. Il n'avait alors aucune liaison avec les gouvernements des États ni avec le Congrès. Il avait résigné sa commission à la fin de la guerre et depuis il avait vécu comme un simple citoyen. La convention entra profondément dans tous les sujets et ses membres, après une infinité de discussions et de recherches, s'étant accordés sur les différentes parties d'une constitution fédérative, la question qui se présenta ensuite fut la manière de lui donner de l'autorité et de la mettre en pratique. Ils n'envoyèrent pas chercher pour cela un statuaire de Hollande ou un électeur d'Allemagne, comme l'aurait fait une cabale de courtisans. Mais ils laissèrent la décision du tout à la sagesse et à l'intérêt du pays. Ils ordonnèrent d'abord que la constitution projetée fût publiée. Secondement, que chaque État élût une convention pour le dessein formel de la prendre en considération et de la ratifier ou de la rejeter. Et qu'aussitôt que 9 des États l'auraient approuvée ou ratifiée, ces États procédassent à l'élection du nombre de membres qu'ils avaient droit d'envoyer au nouveau gouvernement fédératif, qui commencerait alors à entrer en exercice, tandis que l'ancien gouvernement fédératif cesserait ses fonctions. Les différents États commencèrent en conséquence à élire leurs conventions. Quelques-unes de ces conventions ratifièrent la Constitution à la grande majorité, et 2 ou 3 unanimement. Dans d'autres, il y eut de violents débats, et les opinions furent partagées. Dans la convention de Massachusetts, qui se tint à Boston, il n'y eut qu'une majorité de 19 ou de 20 sur environ 300 membres qui la composaient. Mais telle est la nature du gouvernement représentatif que toutes les affaires s'y décident tranquillement à la majorité. Lorsque la discussion fut fermée et les voix recueillies dans la convention de Massachusetts, les membres de l'opposition se levèrent et déclarèrent que quoi qu'ils eussent argumenté et voté contre le projet de constitution fédérative, parce qu'ils envoyaient certaines parties sous un point de vue différent que les autres membres, cependant, comme la majorité l'avait accepté, ils la soutiendraient dans la pratique avec autant de franchise que s'ils avaient voté en sa faveur. Aussitôt que 9 États eurent ratifié et les autres suivirent à mesure que leurs conventions furent formées, l'ancienne fabrique du gouvernement fédératif fut jetée bas et la nouvelle élevée en sa place. Le général Washington en est actuellement président. Je ne puis m'empêcher de remarquer ici que le caractère et les services de cet homme extraordinaire doivent faire rougir tous ces hommes que l'on appelle rois. Tandis qu'ils tirent de la sueur et du sang du peuple un énorme salaire auquel ni leur talent ni leur service ne leur donnent aucune prétention, Washington rend tous les services qui sont en son pouvoir et refuse constamment toute récompense pécuniaire. Il ne voulut point d'appointement lorsqu'il fut général en chef. Il n'en reçoit pas non plus comme président des États-Unis. Lorsque la nouvelle constitution fédérative fut établie, l'État de Pennsylvanie, jugeant que quelques parties de sa constitution avaient besoin d'être changées, élut une convention pour cet objet. Les changements projetés furent publiés, et le peuple y acquiesçant, ils furent faits. Pendant qu'on formait ces constitutions, ou qu'on y faisait ces changements, on n'éprouva aucun inconvénient. Le cours ordinaire des affaires ne fut pas interrompu, et les avantages qui en sont résultés furent grands. Il est toujours de l'intérêt d'un plus grand nombre de gens que les choses aillent bien plutôt qu'elles aillent mal. Et lorsque les affaires publiques sont soumises à la discussion et que le jugement public est libre, il ne décidera jamais mal, à moins qu'il ne décide trop précipitamment. Pendant ces 2 changements de constitution, les gouvernements alors existants n'y prirent aucune part. Le gouvernement n'a pas droit de se rendre partie dans les discussions touchant les principes ou la manière de former ou de changer les constitutions. Ce n'est pas pour l'avantage de ceux qui exercent le pouvoir du gouvernement que les constitutions et les gouvernements qui en dérivent sont établis. Dans toutes ces affaires, le droit de juger et d'agir appartient à ceux qui payent et non pas à ceux qui reçoivent. Une constitution est la propriété d'une nation, et non pas de ceux qui administrent le gouvernement. Toutes les constitutions de l'Amérique sont déclarées établies sur l'autorité du peuple. En France, on se sert du mot « nation » au lieu de celui du peuple. Mais dans les deux cas, une constitution est une chose antérieure au gouvernement et qui en est bien différente. En Angleterre, il n'est pas difficile de s'apercevoir que tout a une constitution, excepté la nation. Chaque société ou association établie s'est d'abord accordée sur un certain nombre d'articles originaires qui furent mis en règle, ce qui fait sa constitution. Et alors le gouvernement de cette société commença. Ses officiers, quel que soit le nom qu'on leur donne, n'ont pas le droit de changer ou d'abréger les articles originaires, ni même d'y ajouter la moindre chose. Ce n'est qu'au pouvoir constituant que ce droit appartient. Faute de comprendre la différence qu'il y a entre une constitution et un gouvernement, le docteur Johnson et tous les écrivains de sa trempe se sont toujours égarés. Ils voyaient bien qu'il fallait qu'il existât quelque part un pouvoir contrôleur, et ils placèrent ce pouvoir dans la discrétion de ceux qui administraient le gouvernement, au lieu de le placer dans une constitution faite par la nation. Quand ce pouvoir est dans une constitution, il a la nation pour appui, et les pouvoirs naturels et contrôleurs sont alors réunis. Les lois émanées des gouvernements ne contrôlent les hommes que comme individus. Mais la nation, par le moyen de sa constitution, contrôle tout le gouvernement et elle a le droit de le faire. Donc le dernier pouvoir contrôleur et le pouvoir originaire constituant ne sont qu'un même et seul pouvoir. Le docteur Johnson n'aurait pas avancé une pareille assertion dans un pays où il y avait une constitution. Et il prouve par là qu'il n'y a rien en Angleterre qui ressemble à une constitution. Mais on pourrait poser en question, et ce serait digne d'être examiné, s'il n'existe pas de constitution en Angleterre, comment l'idée de son existence est-elle si généralement établie? Pour décider cette question, il est nécessaire de considérer une constitution sous ces deux points de vue. Premièrement, comme créant un gouvernement et lui assignant des pouvoirs, secondement, comme réglant et limitant les pouvoirs donnés. Si nous commençons avec Guillaume de Normandie, nous trouverons que le gouvernement d'Angleterre était dans l'origine une tyrannie fondée sur une invasion et la conquête du pays. Cela étant admis, il paraîtra alors que les efforts de la nation, à différentes époques, pour détruire la tyrannie et la rendre plus supportable, ont été pris pour une constitution. Magna Carta, ou la Grande Charte, c'est maintenant comme un almanach de la même date, ne fit rien autre chose que forcer le gouvernement à renoncer à une partie de ses usurpations. Elle ne créa pas un gouvernement et ne lui donna pas de pouvoir, comme le fait une constitution. Mais elle fut de la nature des reconquêtes et non pas d'une constitution. Car si la nation avait pu entièrement extirper l'usurpation, comme la France a fait son despotisme, elle aurait alors eu une constitution à former. L'histoire des Édouards et des Henri, jusqu'au commencement du règne des Stuarts, offre autant d'exemples de tyrannie qu'il était possible d'en commettre dans les bornes que la nation lui avait prescrites. Les Stuarts s'efforcèrent de franchir ces limites et leur sort est bien connu. Dans tous ces exemples, nous ne voyons pas de constitution, mais seulement des restrictions sur des pouvoirs usurpés. Après cela, un autre Guillaume, descendu de la même tige et prétendant à la même origine, prit possession. Et des deux mots, Jacques et Guillaume, la nation préféra celui qu'elle crut le moindre, puisqu'à cause des circonstances, il fallait qu'elle en prît un. L'acte appelé le Bill des droits se présente ici. Qu'est-ce que ce Bill ? Sinon un marché que les parties du gouvernement firent les unes avec les autres pour se partager le pouvoir, les privilèges et les profits. Vous aurez tant et je garderai le reste. Et quant à la nation, on lui dit « Pour votre part, vous aurez le droit de faire des pétitions. » Cela étant fait de cette manière, le Bill des droits est plutôt un Bill de torts et d'insultes. Quant à ce qu'on appelle le Parlement de la Convention, ce fut une chose qui se fit elle-même et qui créa l'autorité selon laquelle elle agit. Quelques personnes s'assemblèrent et prirent ce nom. Plusieurs d'entre elles n'avaient point été élues, et aucune d'elles n'était envoyée pour cet objet. Depuis le règne de Guillaume, il y eut une espèce de gouvernement provenant de ce bill de droit, ou plutôt de cette coalition de partis. Et plus encore, depuis la corruption introduite à l'avènement de la maison de Hanovre par le canal de Walpole. On ne saurait appeler cela qu'une législature despotique. Quoique les différentes parties puissent s'arrêter les unes les autres, le pouvoir de la totalité de ces parties n'a point de borne, et le seul droit qu'elles reconnaissent hors d'elles-mêmes est celui de faire des pétitions. Où donc est la Constitution qui donne ou qui restreint le pouvoir? Quoiqu'une partie d'un gouvernement soit élective, ce gouvernement n'en est pas moins un despotisme si les personnes ainsi élues possèdent après cela, comme le Parlement, des pouvoirs illimités. L'élection, dans ce cas-là, n'a aucun rapport avec la représentation, et les candidats ne sont que des candidats pour le despotisme. Je ne puis m'imaginer qu'aucune nation, en raisonnant sur ses droits, eût jamais pensé à appeler cela une constitution si le gouvernement n'avait pas lui-même fait entendre le cri de « constitution ». On se familiarisa ensuite avec ce mot parce qu'il fut souvent répété dans les discours du Parlement, comme on s'accoutuma à ceux de Saint-Antoine et de son cochon, parce qu'on les vit sur nos enseignes et sur nos fenêtres. Mais quelle que puisse être cette constitution à tout autre égard, elle fut certainement la machine la plus féconde en taxes qui ait jamais existé. Les impôts de la France, selon la nouvelle constitution, ne montent pas à 13 chelins par tête. Et ceux de l'Angleterre, sous ce que l'on appelle sa constitution actuelle, montent à 48 chelins et demi par tête, y compris les femmes et les enfants, puisqu'ils sont de 17 millions sterling, environ 400 millions de livres tournois, outre les frais de perception qui se montent à 1 million de plus. Dans un pays comme l'Angleterre, où toute la partie du gouvernement civil est exécutée par les habitants de chaque ville et de chaque comté, par le moyen d'officiers de paroisse, de magistrats, de sessions tous les 3 mois, de jurys et d'assises, sans causer aucun embarras au gouvernement ou aucune autre dépense du revenu public que le salaire des juges, on ne peut s'imaginer à quoi est employée cette masse de taxes. La défense intérieure du pays n'est pas même payée sur le revenu de l'État. Dans toutes les occasions réelles ou factices, on a toujours recours à de nouveaux emprunts ou à de nouvelles taxes. Il n'est donc pas surprenant qu'une machine si avantageuse aux avocats de la Cour soit si prodigieusement vantée. Il n'est pas surprenant que St. James ou St. Stephen fassent continuellement retentir le cri de Constitution. Note. St. James, palais du roi d'Angleterre à Londres au XVIIIe siècle. St. Stephen, paroisse dans laquelle se trouve le Parlement. Il n'est pas surprenant que la Révolution française soit réprouvée et la Res Publica traitée avec mépris. Le Livre rouge d'Angleterre, comme le Livre rouge de France, en expliquera la raison. Je vais à présent, pour prendre un peu de relâche, donner une pensée ou deux à M. Burke. Je lui demande pardon de l'avoir négligé si longtemps. L'Amérique, dit-il, dans son discours sur le Bill de Constitution pour le Canada, n'a jamais songé à une doctrine aussi absurde que celle des droits de l'homme. M. Burke présume avec tant de hardiesse et avance ses assertions et ses prémices avec si peu de jugement que, sans avoir égard aux principes de philosophie et de politique, les simples conséquences de logique qu'elles produisent sont ridicules et absurdes. Par exemple, si les gouvernements, comme le prétend M. Burke, ne sont pas fondés sur les droits de l'homme et sont fondés sur quelques droits, ils doivent être fondés sur les droits de quelque chose qui n'est pas l'homme. Or, qu'est-ce que ce quelque chose? Généralement parlant, nous ne connaissons d'autres créatures sur la terre que l'homme et les animaux. Et dans tous les cas, lorsqu'il n'existe que 2 choses, et qu'il faut en admettre une négation pour l'une d'elles équivaut à une affirmation pour l'autre. C'est pourquoi M. Burke, en niant les droits de l'homme, prouve en faveur des animaux, et conséquemment prouve que le gouvernement est un animal ou une bête. Et comme les choses difficiles s'expliquent souvent l'une par l'autre, on voit à présent l'origine de garder les bêtes sauvages à la tour, car elles ne peuvent certainement servir à autre chose qu'à montrer l'origine du gouvernement. Elles sont là en place d'une constitution. Oh, John Bull, Jean Taureau. Note. On appelle ordinairement l'anglais John Bull ou Jean Taureau à cause de sa bonhomie grossière et sans malice. Quels honneurs tu as perdu de n'être pas né bête sauvage. Tu aurais pu, selon le système de M. Burke, être à la tour pour toute ta vie. Si les arguments de M. Burke n'ont pas assez de poids pour qu'on lui réponde sérieusement, c'est plutôt sa faute que la mienne. Et comme je veux bien faire mes excuses au lecteur pour la liberté que j'ai prise, j'espère que M. Burke voudra bien aussi me pardonner. Ayant payé à M. Burke le compliment de me souvenir de lui, je reviens à mon sujet. Faute d'une constitution en Angleterre pour restreindre et régler l'impulsion extravagante du pouvoir, plusieurs de ces lois sont déraisonnables et tyranniques, et l'administration en est vague et problématique. L'attention du gouvernement d'Angleterre, car j'aime mieux l'appeler ainsi que le gouvernement anglais, paraît depuis ses liaisons politiques avec l'Allemagne avoir été tellement absorbée par les affaires étrangères et par les moyens de lever des taxes qu'il semble n'exister que pour cet objet. Les affaires domestiques sont négligées, et quant à des lois régulières, elles sont à peine connues dans le pays. Presque tous les cas sont actuellement déterminés par des exemples antérieurs, que cet exemple soit bon ou mauvais, ou qu'il soit applicable ou non. Cette pratique est devenue si générale qu'elle fait naître des soupçons qu'il y a dans cette manœuvre une politique plus profonde qu'on ne le croirait d'abord. Depuis la Révolution de l'Amérique, et plus encore depuis celle de France, le gouvernement d'Angleterre s'est fait une étude particulière de suivre et de prêcher les exemples précédents. La plupart de ces exemples sont fondés sur des principes et sur des opinions précisément l'inverse de ce qu'ils devraient être. Et plus ils sont anciens, plus ils doivent être suspects. Mais en alliant ces exemples avec un respect superstitieux pour les choses anciennes, comme les moines montrent des reliques qu'ils appellent saintes, la généralité du genre humain tombe dans le piège. Les gouvernements agissent aujourd'hui comme s'ils avaient peur d'exciter la moindre réflexion chez l'homme. Ils le conduisent tout doucement au tombeau des exemples pour engourdir ses facultés et éloigner son attention de la scène des révolutions. Ils sentent qu'il acquiert des lumières plus rapidement qu'ils ne le voudraient, et leur politique d'exemple précédent est le thermomètre de leurs craintes. Cette papauté politique, comme la papauté ecclésiastique d'autrefois, a fait son temps et se précipite vers sa fin. La relique en haillons, l'exemple ancien, le moine et le monarque tomberont ensemble en poussière.